Tous.
Ça va bien ce matin? Gloire à Dieu, on va écouter maintenant le message que le Seigneur m'a confié. Je vous demande de lire dans Romains chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit. Que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Alors donc maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que maintenant nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Alors, on va parler de ça ce matin. On va parler de ça aujourd'hui parce qu'il faut que ça soit clair. Plein de gens disent, oh, mais on ne vit pas sous la loi, on vit sous la grâce. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Nous avons été dégagés de la loi, dégagés de son étreinte négative, c'est vrai. Parce que, qu'est-ce que c'était son étreinte négative ? C'est que elle nous conduisait au péché, la loi. C'est vrai. Si la loi ne disait pas « ne touche pas » ou « ne prends pas », eh bien, j'aurais le droit de toucher, j'aurais le droit de prendre. Mais à partir du moment où elle dit « ne touche pas », quand je touche, je désobéis à la loi, donc je tombe dans le péché. Vous comprenez ça? Paul l'enseigne clairement, il dit « Je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne disait « Tu ne convoiteras pas. » Romains, vous trouvez ça dans Romains chapitre 7, verset 7. Voyez. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis Jésus-Christ? Que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand ils regardent le christianisme de l'extérieur, ils ne comprennent pas. Jésus nous a dégagés de la loi, c'est-à-dire de son emprise négative. Comment ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nous sommes morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Nous sommes morts à cette loi. Qu'est-ce que ça veut dire être mort à la loi ? Paul le dit dans cette même lettre, chapitre 6, verset 11, il dit « Regardez-vous comme morts au péché. » C'est-à-dire, nous sommes morts à la loi, c'est-à-dire que par la foi, par notre façon de regarder la vie, nous ne nous occupons plus de cette loi, nous sommes morts à ça. Mais regardez-vous vivant pour Dieu. Maintenant, on est vivant pour Dieu, on se regarde comme ça, c'est par la foi, c'est le regard de la foi. Tout vient du regard que vous avez sur les choses de la vie, sur les choses que Dieu a créées. Être mort à la loi, être mort au péché, c'est être mort en ce qui concerne la loi et du péché qui en découle. Maintenant, ça ne signifie pas que nous pouvons faire tout ce que la loi nous interdisait de faire. C'est là qu'il faut être clair. Ça signifie que nous ne comptons plus du tout sur la loi et sur les sacrifices que la loi nous obligeait de faire pour pouvoir avoir accès au salut. Aujourd'hui, n'étant plus sous le régime de la loi, nous ne comptons plus que sur Jésus-Christ pour notre salut, sur Jésus-Christ seul. Jésus-Christ est notre sauveur. Nous sommes sauvés à la seule condition que nous croyons en lui. Maintenant, qu'est-ce que ça implique de croire en Jésus-Christ? Croire ne nous libère pas du tout de nos devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de nous-mêmes, de la nature. Nous devons agir selon notre modèle qui est Jésus-Christ. Il est venu nous montrer comment un homme, une femme doit vivre. Il nous l'a montré. Cela, je voudrais vous en entretenir un peu aujourd'hui pour que vous compreniez bien. Je veux que ces choses soient claires dans votre pensée. On va lire Romains 6, 15. Romains 6, 15 à 18. Écoutez bien ça, c'est très très intéressant. Beaucoup trop de gens lisent les évangiles, voilà, et puis alors après, ils sautent ces choses primordiales. Romains 6, 15. Paul dit, quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ? Vous voyez là, c'est ce que je viens de vous dire. Loin de là, il dit. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie? On va l'approfondir. Vous qui êtes chrétien, je vous parle à vous qui êtes chrétien. Vous qui n'êtes pas chrétien, écoutez, ça va vous enseigner au sujet de qu'est-ce que c'est le christianisme. Vous qui êtes chrétien, vous rendez à Dieu un culte qui lui est agréable parce que vous vous savez dégagé de la loi et que vous obéissez de cœur à la règle de doctrine qui est imposée par Jésus et par ses apôtres. Vous me dites, alors, quelle est la différence? Vous qui êtes chrétien, vous étiez esclave du péché et Dieu a puni Jésus-Christ à votre place. Votre péché, à cause de votre péché, vous méritiez la mort, mais maintenant Jésus a porté votre châtiment, il l'a porté à votre place. Maintenant vous êtes sauvé, puis il vous a pardonné, il vous a purifié, il vous a justifié. Aux yeux de Dieu, vous êtes juste. Bon, maintenant vous avez changé de maître. Ce n'est plus la loi qui est votre maître, la loi qui vous faisait connaître le péché. Autrefois, votre maître, c'était donc le péché. Mais maintenant, vous étiez esclave du péché. Hein, le péché vous faisait vous enivrer, vous droguer, mentir, forniquer, etc. Aujourd'hui, vous avez un nouveau maître, c'est Jésus-Christ. Et vous vous êtes engagé envers certaines valeurs définies en matière d'enseignement et de conduite. Pas pour être sauvé, mais parce que vous êtes sauvé. Dans l'Église primitive, ces choses étaient clairement enseignées. Aujourd'hui, on ne vous parle que des promesses de Dieu. Voilà, avec Dieu, vous allez pouvoir avoir l'abondance. Avec Dieu, vous allez pouvoir avoir la santé. Avec le Seigneur, venez à Jésus et vous pourrez voyager. Mais c'est quoi ce cirque? Paul nous parle des règles de doctrine. On vient de les lire. Il dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Bon, alors, aujourd'hui, j'aime pas les doctrines. Souvent, on me dit ça. Les doctrines, tu es en doctrine. Mais, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Où sont ces règles de doctrine? Quelles sont ces règles de doctrine? Alors, il ne faut pas croire que le christianisme n'aurait pas de modèle d'enseignement servant à une ligne directrice de sa pensée et aussi de sa pratique. Il faut savoir qu'au temps de Paul, quand Paul écrivait ça, il n'y avait pas encore l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il n'y avait même pas toutes les épîtres de Paul. Il n'y avait pas l'Apocalypse. Alors, c'était quoi ces règles? Bon, il y avait l'évangile de Thomas. Et il s'y référait. Paul s'y réfère souvent. Et vous aussi, vous pouvez vous y référer maintenant qu'ils ont été redécouverts. Et puis, vous pouvez aller sur mon site, révélationbible.com, et vous pouvez trouver cet évangile et les commentaires que j'en ai faits. Mais aujourd'hui, vous avez les quatre évangiles. L'évangile de Thomas ne contredit pas les quatre évangiles, contrairement à ce que les gnostiques et les ignorants disent. Écoutez, les ignorants, ils ne savent pas. Aujourd'hui, nous avons aussi les épîtres pastorales, les épîtres de Paul, Pierre, tout ça. Et tous ces écrits font allusion à la règle de doctrine dont Paul parle ici. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, vous avez dans... Maintenant, vous pouvez voir, vous avez... Autrefois, du temps de Paul, c'était oral, on se le répétait. Maintenant, vous avez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset... Chapitre 5, 6 et 7, vous avez tout ce résumé de cette règle de doctrine. Vous y trouvez là un excellent résumé de cette règle de doctrine. Vous avez premièrement les béatitudes. Qui est heureux? Qui est en marche? Qui est en progression? Ensuite, vous avez... un texte sur l'identité du chrétien. Voilà, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ensuite, il donne une explication concernant la loi de Moïse. Explication très claire donnée par Jésus lui-même. Ensuite, vous avez la règle qui concerne les meurtres. Ensuite, vous avez la règle qui concerne l'adultère. La règle qui concerne le divorce. Vous avez la règle qui concerne les serments. Aujourd'hui, on entend plein de gens qui jurent. Je jure sur ta mère, je jure sur mes morts, je jure sur je ne sais pas quoi. Et puis ensuite, vous avez la différence qui est entre le comportement d'une personne qui est sous la loi et une personne qui est chrétienne. Après, toujours dans ce même texte, vous avez un texte sur le comportement à avoir en face de nos ennemis. Hein, du temps de la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, c'est non. Tu bénis tes ennemis. Et puis ensuite, vous avez un autre texte sur le devoir de donner de l'argent. Mais pas seulement sur le devoir de donner de l'argent, mais aussi sur la façon de donner de l'argent pour ne pas blesser le pauvre. Ensuite, vous avez un texte pour comment prier. Ensuite, comment jeûner. Ensuite, sur l'obligation pour le chrétien de gérer son argent à la façon de Jésus. Ah, vous voyez, ben, pas mal de choses sur l'argent. Ah, les gens, on n'aime pas, tu prêches l'argent. Non, je prêche ce qui est dans la parole de Dieu et l'argent ne fait pas partie de votre vie peut-être. Ensuite, vous trouvez un enseignement sur comment gérer vos inquiétudes. Ensuite, il vous dit de ne pas juger. Ensuite, Jésus témoigne, explique, enseigne comment être exaucé. Et ensuite, il vous dit aussi que la vie, ce n'est pas facile. Et à la fin, Jésus explique que vous, si vous ne mettez pas ces choses en pratique, vous êtes des fous. Alors, on est cerné par les fous, hein? Parce que combien de personnes mettent en pratique ces choses? Vous voyez, frères et sœurs, il dit, vous êtes comme un fou qui construit, n'est-ce pas, sa maison sur le sable. Alors après, il vient la tempête et tout, puis la maison, elle s'écroule. Tandis que celui qui construit sur ses règles de doctrine, c'est comme s'il construisait sur le roc, c'est-à-dire que la tempête, elle peut venir, ça va tenir le coup. Ça va tenir le coup. Vous voyez? Le même Jésus qui dit qu'il ne faut pas traiter de fou, bien lui, il traite certaines personnes de fous. Il se permet de le faire, un insensé, un racain, un fou. C'est celui qui se croit au-dessus des doctrines énoncées, qui se comporte mal envers Dieu et envers les ministères de sa parole. C'est ça un fou. C'est clair, c'est dans la règle de doctrine. Vous voyez, il y a des règles de doctrine qui nous servent à nous mesurer personnellement et qui servent aux bergers dans l'Église pour mesurer le comportement de certaines brebis. C'est pas du n'importe quoi. Alors quand on me dit, oh, prêche l'amour, Michel, prêche l'amour. Mais prêche l'amour, mais bien sûr que je prêche. Ça, c'est une prédication d'amour. Parce que si je ne vous dis pas ça, où c'est que vous allez passer votre éternité? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais croire au Seigneur Jésus, ça veut dire prends en compte ce qu'il a dit. Si tu ne fais pas, eh bien, mon Dieu, tu te trompes toi-même. Et moi, je ne suis pas là pour vous tromper. Il n'y a pas que Matthieu 5 à 7 qui parle de ça. Vous avez aussi Acte 2, 42. Acte 2,42 qui vous donne les quatre points qui concernent la règle à suivre quand on est chrétien. Ces quatre points, ça vous dit, voilà, il y a une obligation, c'est d'être dans l'Église de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas autrement. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Oui, moi, j'ai mon culte personnel avec ma bonne femme. Ce n'est pas biblique. Je suis désolé, ce n'est pas biblique. Oui, mais dans mon Église, il n'y a pas d'amour. Eh bien, vas-y, tu en amèneras un peu. 1, acte 2,42. 1, persévérance dans l'enseignement des apôtres. C'est les apôtres qui ont enseigné que l'Église avait été créée par Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ aime le plus au monde. Et c'est là-dedans qu'on doit entrer. Quand on se fait baptiser, c'est l'entrée dans l'Église. Deuxièmement, la persévérance dans la communion fraternelle. Parce qu'il y en a qui vont à l'Église, qui posent leur derrière dans l'Église, mais qui ne connaissent personne. Pas bon ça. Il faut la communion fraternelle. Ensuite, tout ça, c'est des prédications. On préfère des prédications sur tout ça. Ensuite, persévérance dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Cène. Il faut persévérer là-dedans. Persévérer là-dedans. Pourquoi est-ce que Paul dit qu'il faut le faire? Écoutez ma prédication de vendredi passé, la dernière que j'ai faite au sujet de tout n'est qu'une question de manger et de boire. Écoutez bien ces choses-là. Ensuite, la persévérance dans les prières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous persévérions dans... 1. La prière personnelle, hein, quand Jésus dit, quand tu veux prier, enferme-toi dans ta chambre, et Dieu qui est dans le secret t'écoute, il t'entend, voilà, ça c'est la prière personnelle. Et puis deuxièmement, l'autre prière, c'est la prière en commun avec le corps de Christ, avec l'Église, prier dans l'Église. Hein. On voit beaucoup dans les réunions, moi quand je vais aux réunions, dans les églises, qu'est-ce que je vois? Des églises de 500 personnes, et puis à la réunion de prière, ils sont 40. Voilà. Eh bien, ils n'obéissent pas de cœur à la règle de doctrine. Je suis désolé. Écoutez, je suis en train de prêcher. Vous, les pasteurs qui m'écoutez, je suis en train de prêcher pour vous, là aussi, pour vous aider à attraper vos chrétiens, pour les sortir de simplement, qui ne regardent pas seulement la télévision. Ça, c'est pas bon, ça. Un peu, oui, Mais il ne faut pas que ça empêche votre vie chrétienne à l'église, avec les frères et sœurs. Paul dit, nous étions esclaves du péché, mais maintenant, nous sommes esclaves de la justice. Esclaves de la justice. Romains 6, 17. Vous êtes un esclave. Si vous êtes chrétien, vous êtes un esclave. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes aussi un esclave. Mais vous êtes un esclave du péché qui conduit à la mort. Jésus-Christ a confié à Paul un évangile de la gloire de Dieu. Vous trouvez ça dans 1 Timothée 1, 11. Et dans cet évangile de la gloire de Dieu, il y a la liste des choses qui ne sont pas conformes à ce fameux évangile. Vous trouvez ça dans 1 Timothée 1, 8 à 10. Mais lisez ça. Lisez ça. Il faut vous renseigner, il faut savoir. Vous vous êtes engagé à suivre Jésus-Christ. Alors maintenant, il faut suivre. Il faut être honnête, noble et faire à quoi vous êtes engagé. Ne croyez pas que vous n'aurez pas de compte à rendre. Oh, on est sous la grâce, maintenant on ne passera pas par le jugement. Vous passerez par le jugement. Il y en a même qui passeront par le feu. Il y en a qui recevront des coups. C'est Jésus qui le dit. Ne croyez pas que vous n'aurez pas de compte à rendre. Paul écrivait à Timothée, il lui disait de garder la révélation originale et fondamentale de Christ et des apôtres. Garde ça. Il lui disait, garde fermement ces vérités dans la foi et dans l'amour pour Jésus-Christ. Il lui disait, ne t'en écarte jamais et ne fais pas de compromis avec elle. Pas de compromis. Même si ça doit te mettre en position difficile où tu dois affronter des souffrances, même si à cause de cette fermeté que tu as, tu dois endurer le rejet, la disgrâce. On aime tellement être, n'est-ce pas, aimé par les gens, mais pas à n'importe quel prix. Malheureusement, de nos jours, on accorde plus d'importance aux expériences qu'à la règle de doctrine. Alors on dit souvent, oui, Jésus revient bientôt, c'est le signe, n'est-ce pas? Mais Israël n'est pas le seul signe du fait que Jésus va revenir bientôt. C'est aussi l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon dans l'Église de Jésus-Christ, l'abandon des règles de doctrine. Règles qui sont là pour ajuster nos comportements. C'est un signe de la proche venue de Jésus. Faire des expériences avec Dieu. Ils disent que c'est des expériences avec Dieu. Des expériences avec Dieu. Et les règles de doctrine alors? Qu'est-ce que je dois prêcher? Des fables? Des jolies choses qui réjouissent votre petit cœur? Mais je m'en fous, moi, de votre petit cœur et de vos petits sentiments et de votre impression que je suis dur. Je m'en fous complètement. Je dois vous dire la vérité. Parce que quand j'arriverai devant Dieu, si je ne vous dis pas la vérité, moi aussi j'aurai des comptes à rendre. Et je ne veux pas être trouvé avec votre sang sur mes mains. Je ne veux pas. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Je vous le dis par amour. Peut-être vous ne me croyez pas. Peut-être vous pensez que c'est parce que je suis dur. Non, c'est par amour pour vous. Je vous dirai la vérité, même si ça me rend impopulaire. Je vous la dirai. Je ne me laisserai pas corrompre. Non, jamais. Mes frères et sœurs, gardez le bon dépôt. Gardez-le par le Saint-Esprit qui est en vous. Gardez ce bon dépôt, c'est-à-dire cette doctrine, cette règle de doctrine. Nous sommes les défenseurs de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas les profiteurs de la parole de Dieu. Combien de fois, quand je vais faire mes tournées, je vois dans les églises des gens les mains levées comme ça. « Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu réponds. Alors, Seigneur Dieu, guéris cette personne au nom de Jésus. » Aïe! C'est quoi ce cirque? Quelle honte! Quelle honte de parler à Dieu comme ça! Quelle honte de parler à Jésus comme ça. Le Seigneur Dieu est l'Éternel, c'est pas votre copain. Il est Dieu, infiniment respectable. Nous avons à le respecter. Nous avons l'obligation de respecter ce qu'il a dit, ce qu'il a ordonné. Nous sommes esclaves de la justice. Avant de se permettre de rappeler à Dieu ce qu'il a promis. Mais quelle honte! Souvenons-nous donc de ce qu'il attend de nous avant de lui faire souvenir ce qu'il nous a promis. Mais quelle honte! Souvenons-nous de ces règles de doctrine. Les Saintes Écritures ont un pouvoir, celui de nous rendre sages à salut. Sages en vue du salut, c'est ça que ça veut dire. Par la foi en Jésus-Christ. Les Saintes Écritures, ce n'est pas un grimoire de recettes magiques qui donne la santé, la prospérité, la sécurité, le bonheur, le mariage heureux, les enfants, la fécondité. Ce n'est pas un grimoire magique. La parole de Dieu, elle sert à enseigner, elle sert à convaincre, elle sert à corriger pour instruire dans ce qui est juste, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit accomplie, propre à toute bonne œuvre. Voilà ce que Paul dit à Timothée, 2 Timothée 3, 16 à 17. Et vous voudriez que je vous prêche autre chose? Le Saint-Esprit est le grand guide, il est le grand défenseur de la vérité. Jean 16, 13. Et en ce qui nous concerne, ce qui vous concerne, vous chrétiens, il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Mais être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas faire... Soyez remplis du Saint-Esprit pour être guide et défenseur de la vérité, des règles de doctrine et de la foi ancienne données une fois pour toutes aux saints. Jude 1, 3. À cause de ça, parce que Paul faisait ça, il a été abandonné de tous. 2 Timothée 1, 15. Voulez-vous toujours suivre Jésus? Que voulez-vous? Marcher avec votre christianisme personnel, ça vous mène à la confusion, là où vous êtes d'ailleurs. Et puis... Voulez-vous marcher selon les enseignements farfelus des raconteurs de fables, de ces créateurs psychiques de pseudo-spiritualité? Il faut voyager. Vous savez, quand on voyage, on voit beaucoup de choses, on s'aperçoit, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Et on se rend compte que, voilà, toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, tous ces trucs, ces expériences, ces machins, mais ça se passe aussi bien dans toutes les sectes, dans tous les trucs bizarres, les machins étranges qui n'ont rien à voir avec Jésus. Ou est-ce que vous voulez marcher derrière Jésus en obéissance à la règle de doctrine? Il y a un prix à payer, mais alors quelle paix! Quelle paix! Frères et sœurs, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Un jour, quelqu'un m'a reproché. Ouais, dans le monde, les gens du monde, comme tu dis. Mais oui, il y a des gens du monde, il y a des gens du monde. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas du monde. Voilà, nous ne sommes pas du monde. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est Jésus qui l'a dit. Alors, il faut vous identifier. Vous êtes du monde ou vous êtes dans le monde? Vous êtes quoi? Vous savez, je lis beaucoup de choses. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Et je lisais une phrase de Confucius. Confucius, il a dit, « Inutile de discuter avec les bêtes sauvages ou les oiseaux, je ne peux fréquenter que mes semblables. » Terrible. Il avait déjà remarqué ça, lui. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes le troupeau de Jésus, fiers de l'être, bien distincts par notre comportement aux troupeaux qui sont, c'est tous ces troupeaux qui sont bêlants et errants dans le monde. Par notre comportement, par nos paroles, il faut que nous inspirions le plus grand nombre possible de personnes, il faut que nous les convainquions, il faut que nous soyons crédibles pour qu'ils deviennent non plus esclaves de la loi, incapables de faire le bien et perdus quant à la foi en Jésus-Christ, mais il faut que nous les attirions à l'amour de Jésus-Christ qui est exigeant aussi. Nous avons une grande responsabilité. Alors ne salissons pas la réputation de Jésus en nous permettant de ne pas vivre selon les règles de doctrine et en faisant des compromis. En faisant des compromis. On ne peut pas, on n'a pas le droit. Ou alors, on ne sera pas appelé des serviteurs fidèles. Choisissez. Moi, j'ai choisi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous vienne en aide. Nous ne sommes pas parfaits, ni les uns ni les autres, mais nous avons ces règles pour nous aider à marcher droit et à participer à la gloire à venir que Dieu nous réserve. Merci Seigneur. Amen. Prions. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs qui ont écouté cela jusqu'au bout, qui ont eu cette patience et cet amour de ta parole, des Saintes Écritures, pour écouter jusqu'au bout. Veuille les bénir, les aider à comprendre et à marcher de progrès en progrès. Aide-moi aussi, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, parce que sans ton esprit, ce n'est pas possible. Tes exigences sont trop élevées. Mais par ton esprit, tu viens à mon secours. Tu viens au secours aussi de chacun et de chacune qui regarde cette émission télévisée ou qui écoute sur Internet. Que ton nom soit glorifié, béni, loué, adoré. Merci, Jésus. Merci pour l'encouragement que tu nous donnes. Que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout devient possible. Merci, parce que tu rends possible pour nous l'obéissance à ces règles de doctrine. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et amen. À bientôt, frères et sœurs. À bientôt.